Et les dernières informations vous sont présentées par Bruno Cadenne. Bonsoir.
Bonsoir Olivia Gesbert, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité de ce dimanche 24 mai.
Le premier anniversaire de la tuerie du musée juif à Bruxelles. Il y a un an, jour pour jour, quatre personnes tombées sous les balles de Mehdi Nemmouche. L'auteur présumé de la tuerie a été depuis extradé en Belgique. Pour le sociologue Michel Wiewiórka, ce massacre est le symbole de la recrudescence de l'antisémitisme. Nous l'entendrons dans ce journal. Olivia, dans un quart d'heure, dans dimanche et après, vous revenez sur la réforme du collège avec vos invités.
Une rencontre est prévue la semaine prochaine, logiquement, entre la ministre de l'Éducation et les fédérations d'enseignants. Le débat sur la réforme est loin d'être clos. Sa publication par décret laisse ouvertes de nombreuses questions et notamment celle de l'incompréhension, voire du décrochage entre la gauche et une partie du monde enseignant. Avec nous pour en parler le politologue Gaël Brustier et le spécialiste des politiques éducatives Denis Meuret.
La Grèce affirme ne pas pouvoir rembourser ses dettes au FMI en juin. Athènes devait verser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international le mois prochain. Le risque de défaut de paiement de la Grèce est toujours bien présent. Nous irons faire un tour à Cannes dans ce journal. Dans moins d'une heure débutera la cérémonie de clôture. En direct du festival, Antoine Guillot nous donnera les dernières rumeurs sur le palmarès. Et puis en fin de journal, notre rendez-vous habituel avec l'économie. Cette semaine, Véronique Pellerin reçoit Valérie Segond pour parler d'économie et de réchauffement climatique. Il y a un an, le musée juif de Belgique était attaqué à Bruxelles à la veille des élections belges. Quatre personnes étaient abattues. L'auteur présumé du massacre, Mehdi Nemmouche, est toujours en prison en Belgique, où il a été extradé par la France après son arrestation à Marseille. Depuis, le musée juif de Belgique a rouvert ses portes en septembre dernier. Une attaque à Bruxelles, symbole de la montée de l'antisémitisme en Europe, pour le sociologue Michel Wiewiórka, interrogé par Sophie Anastasio.
Cet antisémitisme, il a gagné du terrain essentiellement de deux manières. La première manière, c'est la plus évidente, au sein de populations issues d'une immigration venue de pays arabes et ou musulmans, d'une part. Et deuxièmement, il gagne du terrain dans toutes sortes de milieux pour qui les juifs incarneraient une sorte d'opposition à la nouvelle culture liée à Internet, c'est-à-dire liberté d'expression, liberté de circulation de toutes les opinions, quelles qu'elles soient, même si elles sont criminelles. Et puis, je note aussi que la montée en puissance des extrêmes droites, en France par exemple le Front National, libère la parole de façon plus générale. Et on voit donc ressurgir des attitudes, des préjugés, des opinions antisémites dans des milieux où ça s'était un peu perdu.
Quelles sont les causes de cette montée de l'antisémitisme ?
C'est un mélange de choses historiques et de problèmes de société. En temps de crise, on cherche plus facilement qu'en d'autres temps des boucs émissaires. S'ajoute à ça toutes les difficultés du Proche-Orient ou du Moyen-Orient et le fait que les gens qui viennent faire du terrorisme agitent ce thème de la haine des juifs de façon à mobiliser des parties non négligeables, croit-il, de la population dans ces sociétés. Ils viennent pas seulement tuer des juifs par haine des juifs ou par haine d'Israël, ils viennent aussi essayer de se gagner des sympathies.
La Grèce n'a pas l'argent pour rembourser ses dettes au FMI en juin. La déclaration du ministre de l'Intérieur grec aujourd'hui n'a fait que confirmer les énormes difficultés financières d'Athènes. La Grèce devait rembourser en juin 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Mais les caisses sont vides pour rembourser ses dettes et payer également les salaires et les retraites des fonctionnaires. À Athènes, Angélique Kourounis.
Nous avons fait ce que nous avions à faire. Maintenant, c'est au tour de l'Europe de faire son travail. Les propos du Premier ministre grec sont clairs, précis et incisifs. Ils mettent fin à une période d'incertitude en Grèce sur l'étendue des concessions que le gouvernement est prêt à faire pour arriver à un accord avec ses créanciers. Alexis Tsipras s'adressait au comité central de son parti, le Syriza, réuni ce week-end à Athènes pour faire le point de la situation. La Grèce, a-t-il martelé, ne pliera pas face à des demandes irrationnelles, mais elle a fait sa part pour arriver à un compromis sur sa dette possible si l'Europe fait la sienne. Nous ne discuterons pas d'une dérégularisation majeure du système salarial et nous n'accepterons pas une nouvelle réduction des retraites, a-t-il souligné à l'intention de l'aile gauche de son parti qui, de son côté, a prévenu qu'aucune mesure d'austérité ne sera adopté dans ce Parlement. Et pour bien mettre les points sur les i, le ministre de l'Intérieur, Nikos Voutsis, a lui déclaré au cours d'une émission télévisée sur une chaîne privée que si aucun accord n'est trouvé, eh bien la Grèce n'aurait pas d'argent pour rembourser le FMI le mois prochain. Jusqu'à présent, malgré la politique d'étranglement des créanciers à son égard, la Grèce a remboursé rubis sur l'ongle 6,5 milliards d'euros depuis février en raclant ses fonds de tiroir, en retardant ses paiements internes. Mais le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a souligné que s'il devait désormais choisir entre les paiements paiement des salaires et des retraites et le remboursement aux créanciers, il opterait pour la première solution. Nous avons fait les trois quarts du chemin, a-t-il déclaré, à nos partenaires de faire le quart restant. Selon un sondage paru ce dimanche, 59% des Grecs approuvent la stratégie du gouvernement face aux créanciers.
70 migrants venus d'Afghanistan et d'Irak ont été secourus aujourd'hui par les gardes-côtes italiens alors qu'ils dérivaient au large des côtes sud-est de l'Italie. Deux vedettes de la police et des gardes-côtes les ont conduits vers le port de Santa Maria di Leuca dans les Pouilles. Plus de 60 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le début de l'année, d'après les Nations Unies. Un leader séparatiste de la région de Luhansk dans le Donbass en Ukraine a été assassiné hier soir. Alexei Mozgovoy, le commandant du bataillon rebelle Fantôme, a été tué dans l'attaque de sa voiture hier soir sur une route près de la ville d'Alchevsk, alors une quarantaine de kilomètres de Luhansk. 7 personnes ont été tuées dans cette attaque. Plusieurs assassinats de chefs séparatistes pro-russes ont eu lieu ces derniers mois dans la République populaire de Luhansk. L'opposition burundaise a enterré aujourd'hui Zedi Feruzi, le président d'un petit parti d'opposition, abattu hier soir à Bujumbura, la capitale du pays, en compagnie d'un de ses gardes du corps. Un assassinat qui a entraîné la suspension de la trêve dans les manifestations de l'opposition contre le troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza et le timide début de dialogue avec le pouvoir. L'opposition affirme que les tueurs portaient des uniformes de la garde présidentielle, ce que dément la présidente, qui se déclare choqué et qui déclare aussi que les coupables seront traduits devant la justice. Alors que l'UMP, rebaptisé peut-être les Républicains, prépare son congrès à Paris, un sondage de l'Institut Odoxa affirme qu'Alain Juppé battrait Nicolas Sarkozy de 10 points au second tour de la primaire prévue pour novembre 2016. Gaël Brustier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, invité d'Olivia Gesbert dans Dimanche et après à 18h15 pour parler de la réforme des collèges. Mais un mot sur l'UMP ou les Républicains et sur la stratégie de Nicolas Sarkozy, beaucoup plus volontariste que celle d'Alain Juppé, qui serait nuancée. Est-ce le bon choix d'après vous ?
Bon, tout d'abord, c'est un sondage qui mérite d'être relativisé parce qu'il y a une contestation apparemment qui monte de sa méthodologie. Et en outre, il y a le fait qu'il s'agit d'une primaire, c'est-à-dire avec un périmètre d'électeurs qu'on connaît encore très très mal. Et il est très difficile de juger de qui sera élu. Je rappelle quand même que pour la primaire socialiste de 2011, à la même époque, Dominique Strauss-Kahn était donné écrasant tout le monde, François Hollande devait avoir 5% et Arnaud Montebourg faisait 1%, voire n'existait même pas dans les sondages. On a vu le résultat à la fin et l'équilibre politique qui en est sorti. Ce qu'il faut regarder, c'est beaucoup plus le positionnement idéologique qu'est en train de construire Nicolas Sarkozy, celui effectivement d'Alain Juppé. Alain Juppé est un candidat qui essaye de rassembler le centre-droit, le centre-centre-droit, dans une phase de radicalisation parallèle des électorats du FN et de l'UMP, comme on le sait. Et Nicolas Sarkozy essaye de faire une synthèse entre plusieurs droites. Il a fait d'abord des appels du pied à la Manif pour tous l'été dernier. Et puis là, il tente avec les Républicains de préempter tout le vocabulaire républicain pour l'investir d'une charge nouvelle à ses droitières, comme il sait le faire, et de braconner sur de nouveaux terrains, dont celui, comme on en parlera tout à l'heure, plus traditionnel de la gauche.
Voilà. Gaël Brustier, merci. On vous retrouve donc dans quelques instants. C'est dans 50 minutes que débute la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2015. Le jury présidé par les frères Cohen doit rendre public son palmarès. Antoine Guillot, bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Alors on s'attend cette année à un palmarès plein de surprises.
Oui Bruno, le Festival de Cannes ne fait plus rêver les Français. Selon un sondage publié aujourd'hui par le Parisien Aujourd'hui, le palmarès délivré dans moins d'une heure par le jury des frères Cohen fera-t-il rêver les cinéphiles ? Rien n'est moins sûr. Dans une compétition très faible cette année, 4 films remportaient les suffrages des festivaliers et 2 devraient repartir bredouille. Selon nos informations, ni Mountains May Depart de Jia Zhangke, portrait bouleversant de la Chine contemporaine, ni Mia Madre de Nanni Moretti, son meilleur film depuis 15 ans qui a fait pleurer toute la croisette, ne seront récompensés ce soir. En revanche, Carole, le mélodrame flamboyant autant que dévitalisé de Todd Haynes, favori de la presse internationale, semble très bien parti pour remporter la Palme d'Or. Si c'était le cas, ce serait la deuxième fois en 2 ans, après la vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, qu'une histoire d'amour lesbien serait récompensée. Autre favori, le vétéran taïwanais Hu Xiaoxian pourrait recevoir le grand prix ou celui de la mise en scène pour les superbes images de son très hermétique The Assassin. Pour le reste, on devrait voir primer la révélation du festival, le hongrois Laszlo Nemes et son évocation radicale et puissante des camps de la mort nazis, qu'est le fils de Saul, le grec Yorgos Lanthimos et son curieux Lobster, le mexicain Michel Franco et son glaçant Chronique verraient récompenser leur choix de tourner en anglais avec des stars internationales. Mais la grosse surprise, alors que la nombreuse sélection française a été vilipendée pour sa faiblesse, c'est qu'aussi bien Jacques Audiard, Stéphane Brisé que Mai Wen, avec un prix d'interprétation pour Emmanuel Berco, seraient honorés ce soir, ce qui validerait a posteriori les choix contestés du directeur artistique du festival, Thierry Frémaux.
Antoine Guillaume, merci. On verra si vos prévisions sont conformes à la réalité. C'est l'heure de notre rendez-vous habituel du dimanche soir avec l'économie. Bonsoir Véronique Pellerin.
Bonsoir Bruno.
Alors ce soir avec Valérie Segond, vous nous parlez économie verte.
Tout à fait. À 200 jours de la conférence sur le climat, les grandes entreprises ont dit cette semaine qu'elles étaient prêtes à prendre leur part de la lutte contre le réchauffement climatique, à une condition que le prix de la tonne de carbone émise, Valérie, soit clairement fixé.
Bonsoir. Il est clair que la lutte contre le réchauffement climatique ne pourra pas se faire sans les entreprises. Mais comment les convaincre d'investir dans la réduction de leurs émissions de carbone ? Quand ça ne coûte rien d'émettre, il n'y a pas d'intérêt à investir dans de nouvelles technologies plus propres et qui coûtent cher. A l'inverse, si les émissions polluantes deviennent coûteuses, les entreprises auront intérêt à agir. C'est un système beaucoup plus efficace que de confier à une administration le soin de dire qui doit réduire ses émissions, où et comment. En plus, cela stimule l'innovation technologique et fait naître de nouveaux secteurs d'activité, donc le prix du carbone, c'est doublement vertueux.
Bon, ça c'est le principe, mais si on s'y prend comment dans la pratique ?
Il y a deux façons de faire. Soit on fixe un prix à la tonne de carbone émis sans limiter les quantités, par exemple une taxe, comme le font aujourd'hui 14 pays dans le monde. Alors c'est le système le plus simple, même si, politiquement, c'est le plus dur à faire passer. Soit on fixe une quantité maximale de droits à émettre, des quotas, mais alors on laisse le prix s'équilibrer tout seul, en fonction de l'offre et de la demande, sur des systèmes d'échange de droits d'émission. Aujourd'hui, 39 pays ont adopté ce système.
Et quelle est la solution adoptée par l'Europe, le quota ou la taxe ?
Eh bien, dans les années 90, l'Union européenne n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une taxe. Du coup, la Commission a défini un plafond maximal d'émissions sur l'Europe. Elle a réparti ce plafond en droits à émettre entre toutes les grandes installations industrielles. Il y en avait à peu près 600 en Europe. Et elle a commencé par les donner gratuitement. Mais elle a prévu que celles qui auraient trop de droits par rapport à leur production pourraient les vendre sur une plateforme d'échange à un prix de marché. Le système européen, qui fonctionne depuis 5 ans, est le plus avancé au monde.
Est-ce que cela a été efficace ?
Il a été très critiqué parce que la valeur des droits s'est effondrée. L'Europe avait fixé un prix de 32 euros la tonne. Sur le marché, elle ne vaut pas plus de 7 euros. Pour autant, peut-on dire que ça n'a pas fonctionné ? Eh bien non. Le prix a baissé parce qu'avec la crise, la production des industries a fortement chuté, donc les émissions ont elles aussi baissé. Mais ce n'est pas parce que les entreprises étaient devenues plus propres. En fait, les entreprises ont pour l'instant peu investi dans la transition énergétique parce que le prix de la tonne de carbone est beaucoup trop bas pour que ce soit intéressant. On sait qu'à moins de 60 euros la tonne, les investissements dans le stockage de CO2 ne peuvent pas être rentables.
Alors dans ces conditions, qu'est-ce que les entreprises attendent de la conférence de Paris ?
Elles attendent que les États se mettent d'accord sur des mécanismes de fixation de prix du carbone pour qu'ils convergent et qu'ils arrivent à créer un système suffisamment stable pour que le prix de la tonne de carbone soit prévisible et leur permette d'investir.
Il y a des chances qu'on y arrive ?
Mais pour l'instant, tout le monde étudie tous les mécanismes existants. Il n'y a à peu près que l'Europe, accompagnée du Québec, de l'Ontario et de la Californie, à avoir créé une vraie plateforme de fixation des prix par le marché. Or, si l'Europe reste seule, quand la reprise viendra et que la tonne de CO2 grimpera, il y aura une forte distorsion de concurrence entre les entreprises européennes et les autres. Le risque est que les grandes usines polluantes partent s'installer dans les pays où il n'y a pas de prix du carbone. Alors aujourd'hui, dans les pays avancés, tout le monde est convaincu de la nécessité de faire quelque chose. Même Washington, qui était réticent au départ, semble avancer. Le vrai problème reste les grands pays émergents, en particulier l'Inde, pour lequel l'industrialisation reste la priorité, peu importe la pollution. Mais mettre 195 pays d'accord sur un mécanisme unique, disons que ce n'est pas gagné.
Merci Valérie Segond et Véronique Pellerin. On apprend cet après-midi la mort du mathématicien américain John Nash dans un accident de la route. Prix Nobel d'économie en 1994, il s'était rendu célèbre pour ses travaux sur la théorie économique des jeux. Il est décédé avec son épouse après avoir été éjecté d'un taxi dont le chauffeur avait perdu le contrôle sur une autoroute du New Jersey. John Nash avait 86 ans, sa vie a été mise à l'écran en 2001 dans le film « Un homme d'exception ». On termine avec un mot de météo. La pluie va faire son retour demain matin, surtout le quart nord-est de la France. Ailleurs, cela sera soleil et nuages. Les températures demain matin s'échelonneront entre 12 et 22 degrés.